Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux pour cette table ronde intitulée « La Terre sans humanité » en compagnie de Valérie Lostis et Alain Musset, que je vais présenter brièvement et qui vont ensuite vous faire une présentation PowerPoint autour de la... Enfin PowerPoint, c'est-à-dire qu'ils vont, illustrer leurs propos avec des images pour que vous compreniez bien. Et ensuite, on pourra discuter tous ensemble autour de la thématique et si vous avez des questions, voilà. Le fait d'être dans cette salle est assez agréable parce que on peut converser assez de manière assez naturelle avec le public, donc voilà, on va essayer d'en profiter. Donc Valérie Lostis est ingénieure chercheuse et spécialiste du comportement des ouvrages en béton armé atteints par la corrosion de leurs armatures. Pardon. Elle dirige le laboratoire d'études du comportement des bétons et des argiles du CEA. Ses travaux portent sur les mécanismes de corrosion des métaux et sur le comportement des bétons armés soumis à divers environnements. Je suis désolé de lire, mais c'était trop compliqué pour que... Alain Musset, lui, est... C'est vrai, c'est un peu plus simple, mais je vais lire quand même. Géographe, directeur d'études à l'EHESS, c'est ça ? Donc ses recherches portent surtout sur les villes et les sociétés urbaines en Amérique latine dans une perspective historique, critique et sociale. Mais c'est aussi un passionné de science-fiction et il a rédigé deux essais qui s'intéressent aux imaginaires de la ville et aux visions futures de notre planète. Donc on est en plein dans le sujet. Le syndrome de Babylone, géofiction de l'apocalypse, et c'est aussi un passionné de Star Wars, et il a consacré un ouvrage à la ville, planète de Coruscant. Je ne sais pas comment on dit, Coruscant.
Alors, si c'est en anglais, c'est Coruscant, mais en français, on a le droit de dire Coruscant, car l'adjectif existe. Vous n'utilisez jamais, je présume, pardon.
Excusez-moi. Vous n'utilisez jamais, je pense, Coruscant, mais Coruscant, ça vient du latin Coruscare, j'ai un copain latiniste, et ça veut dire briller, étinceler. Donc on a le droit de dire Coruscant.
D'accord. Et votre dernier ouvrage, alors, c'est « Autant embrasser un Wookiee, sans réplique culte de la saga Star Wars », voilà, que vous pourrez aller acheter et faire dédicacer après la table ronde.
Ouais. Ça me rapportera plein d'argent. C'est pas vrai.
Je vous laisse la parole. Et si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à les ajouter, voilà.
D'accord. Ben merci beaucoup. Donc on va vous faire une présentation appuyée par des images pour que ça saute un peu plus aux yeux. L'idée de notre présentation c'est de vraiment de mélanger les sciences, ce qui est le propos des utopiales. Moi, je fais partie des sciences sociales, que certains qualifient de sciences molles. Et puis, il y a Valérie qui, elle, fait partie des sciences dures ou asociales. C'est une petite pique,
bien,
non, ouais, ouais. Non, mais c'est pas vrai, on s'entend bien.
Hein. Elle bosse sur le béton, c'est des sciences dures.
Sur le béton, il n'y a pas plus dur que ça.
C'est l'ambiance.
Non. Donc, l'idée, c'est effectivement de croiser nos regards sur le même objet. C'est-à-dire, effectivement, on va travailler sur la ville, sur les villes, sur les bâtiments. On est, cette année, la thématique, c'est sur le temps qui passe. La science-fiction s'intéresse souvent au futur, pas nécessairement, mais souvent au futur. Et l'idée, c'est de voir comment on nous présente l'avenir de nos constructions, une fois, par exemple, que l'humanité aura disparu. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui connaît Albert Speer? Oui? Qui était Albert Speer? L'architecte d'Hitler. Alors pourquoi je cite Albert Speer? Parce que dans ses mémoires, c'est un sale type. Hein, mais on est obligé, tout comme en science-fiction, on est aussi obligé d'avaler des romans qui sont hyper nuls, mais qui apportent beaucoup de choses. Donc Albert Speer, dans ses mémoires, a dit quelque chose qui est très très intéressant. Il a dit que Hitler lui avait demandé, pour recomposer les villes de la Nouvelle-Allemagne, de faire en sorte que dans 1000 ans, à la fin du Reich, les ruines soient aussi belles et aussi impressionnantes que les ruines égyptiennes. Donc l'idée c'est ça, c'est penser le présent avec la vision du futur et qu'est-ce que nous allons laisser. Heureusement, il n'a pas fallu attendre 1000 ans pour voir la fin du Troisième Reich, et on a vu les ruines allemandes bien avant cette période. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'est-ce qui va se passer après? Que va-t-il rester de nous? Et si on peut passer la... Ouais, s'il te plaît.
Ça
voilà, ça marche. Donc, l'idée, c'est on part du principe, l'humanité a disparu. Il y a un livre que je vous recommande, qui est celui que vous voyez là, Alan Weisman, Homo Disparitus, qui raconte l'humanité a disparu. Alors, pourquoi épidémie, on s'en fout. Hein. L'essentiel, c'est qu'il ne reste que nos œuvres. Eh bien, que va-t-il se passer? Et dans ce livre, il décrit New York, comment New York, au fil des siècles, va tomber en ruine, va se décrépir, etc., etc. Et il le fait de manière, on va dire, relativement scientifique. C'est un essai, c'est pas de la science-fiction, il n'y a pas d'histoire, c'est juste un constat, une description du futur. Et l'idée, effectivement, pour nous, c'est de voir comment et pourquoi nos villes sont vulnérables. Et là, il me semble que pour voir comment nos villes sont vulnérables, si tu peux passer à la suivante, on a choisi deux thématiques. On pouvait prendre plein de choses. Vous imaginez la disparition de l'humanité. On a essayé de voir avec deux orientations possibles, la submersion des villes et qu'est-ce qui se passe ensuite des gratte-ciels une fois que nous avons disparu. Les villes submergées, c'est un des piliers de la science-fiction. Pourquoi ? Parce que c'est vachement bien, c'est absolument impressionnant. Imaginez que l'on nage entre les ruines de New York, de Denver, de tout ce que vous voulez. On a pris trois exemples. Donc la peur géante de la pierre Rennes à partir de Stephen Wull, où on voit les villes qui ont été englouties. Waterworld de Kevin Reynolds, où là ce sont les ruines de Denver. Vous vous souvenez, Waterworld, le monde, on ne sait pas trop pourquoi et ni comment, mais enfin se retrouve complètement submergé, et puis il resterait peut-être un endroit qui s'appellerait Dryland, qui est une sorte de terre mythique, et on peut aller là aussi dans ces ruines. Et je vous ai donné une image d'une illustratrice, une jeune illustratrice qui est Alice Forge, qui fait des trucs superbes. C'est le Louvre sous les eaux, donc avec les poissons qui passent, et l'idée c'est qu'est-ce qui va se passer pour nos villes si jamais elles sont submergées.
Donc moi j'essaye de toi tu es la science-fiction et moi j'essaye d'être le réalisme et donc de vous expliquer
et de casser les trucs
je vais essayer de vous expliquer ce qui peut se passer en vrai. Alors dans un premier temps, nous avons sélectionné des images d'objets réels qui ont été submergés pendant plusieurs dizaines d'années. Donc on voit ici la barque de Lambeau par exemple, qui a été un des premiers ouvrages construits en béton en 1849. Donc elle a été submergée pendant 100 ans dans un lac d'eau douce. En fait, elle existe encore. Elle est exposée au musée des travaux publics à Paris. Et puis, une cité engloutie chinoise depuis 60 ans, l'impression qu'on a, c'est que le béton est relativement bien conservé dans les deux cas. Alors, que nous dit la science sur ces aspects-là ? Donc, qu'est-ce qu'un béton, déjà ? Est-ce que vous savez tous ce qu'il y a dans un béton ? Je fais une petite interro surprise, là. C'était toi, hier, l'interro surprise. Mais à votre tour de jouer, est-ce que vous savez ce qu'il y a dans un béton ? Ouais, oui. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ouais. De l'eau ?
Ouais. Ça a été dit.
Sable, de l'eau ? Du ciment et des cailloux. Ouais, bien, bien. Donc il y a quatre constituants qu'on mélange ensemble. Au départ, c'est tout liquide. Et puis, au bout de quelques heures ou quelques jours, ça devient dur, ça durcit. C'est ce qu'on voit ici, en fait, en fond d'image, donc un béton. Et en fait, au cœur de ce béton, il y a une solution qui circule, de l'eau dans des pores, en fait. Il faut s'imaginer que c'est une grosse éponge, en fait, avec de l'eau qui peut circuler, ou du gaz, ou des composés. Et en fait, le principal composé du béton, pour ceux qui sont un petit peu chimistes, c'est un composé à base de calcium. Donc, il faut retenir que le béton est poreux, et surtout que l'eau qui circule, en fait, dans ce béton, elle est basique. Basique, c'est le pH, pour ceux qui connaissent un petit peu des notions de chimie. pH basique, c'est proche de celui de l'eau de Javel. Vous pouvez imaginer à quel point c'est basique. Alors, on peut étudier au laboratoire la dégradation chimique d'un béton qui est immergé dans l'eau. Donc nous, on le fait au quotidien dans le laboratoire dans lequel je travaille, dans des réacteurs qui se présentent là. Ah, on ne voit pas mon pointeur rouge. Bon, je ne vais pas utiliser le pointeur, ce n'est pas grave. Et on observe, à la fin de l'expérience, au bout de plusieurs mois, qu'on a une modification du béton en profondeur, à cœur, que l'on observe par un magique indicateur coloré qui change de couleur lorsque le pH change. C'est-à-dire que lorsque le pH du béton diminue, l'indicateur coloré passe du rose au blanc. Donc, la conclusion de ça, c'est que le vieillissement d'un béton dans l'eau entraîne une dégradation chimique, mais elle n'est pas pour autant associée à des effets de fissures ou des éclats de béton. C'est-à-dire que les auteurs de science-fiction qui représentent les villes submergées en maintenant un aspect très correct des structures, ils sont relativement réalistes. Pour autant, il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur, il se passe quelque chose de chimique, mais j'ai trouvé en tout cas que les représentations SF sur ce coup-là étaient plutôt réalistes. Donc ça, c'est un bon point pour les auteurs de SF.
Ouais.
Alors,
on a gagné.
On peut enchaîner sur les gratte-ciels, du coup.
Oui, alors juste, et pour vous dire que c'est important... quand je disais que le lien entre les deux, moi je vous dis, il y a des images, etc. Et puis, oui, ça marche ou ça marche pas. Avec Roland, donc là, sur Star Wars, il me casse le moral chaque fois. Je lui dis, hein, quand je lui parle de sabre laser, il me dit pas possible. La vitesse superluminique, ah non, pas possible non plus.
Sais, là on a commencé par des choses qui sont réalistes, mais après ça marchera peut-être pas tout le
temps. Bon, alors d'accord. Bon, donc on
pas
va voir.
Ton délire, mais...
on va voir si ça marche pour le reste. Parce que ce qui se passe sous les eaux, ben, ça va se passer aussi sur Terre et dans les airs. Donc, on a quelques représentations. Donc, vous connaissez peut-être Planète Terreur de Robert Rodriguez. Oui, non, oui. Enfin, c'est pas un grand film, mais bon, j'avoue honnêtement, non, mais j'adore Robert Rodriguez parce qu'il est gore, c'est très très sympa ces films, bon, et donc là il y a des zombies partout, donc la planète commence à se dégrader très méchamment, et il trouve finalement, alors je spoil, hein, je veux dire, finalement la poignée de survivants réussit à trouver un coin super sympa, et c'est la ville maya de Tulum. Pour celles et ceux qui connaissent, donc je trouve que c'est super parce que c'est une superbe ville. Donc allez visiter Tulum, hein, en plus c'est au bord de la Caraïbe, c'est extraordinaire. Mais ce que vous voyez, bon, ce sont les édifices qui sont abandonnés, hein, et qui se dégradent. Vous avez un autre film qui est d'actualité et qui est très à la mode. Bon, c'est dans le cycle de Labyrinthe. Hein, que vous connaissez peut-être, c'est des trucs pour teenagers, c'est intéressant aussi, parfois un peu longué. Bon, enfin bon, je vais pas. Vous avez là, hein, les ruines d'une ville avec le béton qui se dégrade, et vous avez aussi là avec Biagino et Neskin, donc Grey Day, où vous avez ces immeubles des villes futures qui se dégradent petit à petit. Et est-ce que c'est un scénario probable ou pas, finalement, cette dégradation ?
Alors, on va voir ça. Donc, on revient sur notre béton que je vous avais décrit tout à l'heure. Donc, je vous rappelle, le béton avec la solution qui est basique. Alors, ce béton, il est exposé à l'air, et dans l'air, il y a du CO2. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une jolie animation, il faut bien regarder l'écran. Le CO2 va réagir avec le principal constituant du béton pour former une nouvelle espèce qui s'appelle la calcite. CaCO3, on voit les petits atomes là qui sont mixés. Et la conséquence principale de cette formation, c'est que le pH de la solution va diminuer. Alors je vous montrais tout à l'heure la soude caustique là à 14, l'eau de béton initialement à 13, et puis l'eau de béton carbonaté jusqu'à un pH de 8. Alors, dans ce béton-là, les bâtiments qu'on a vus là dans les ouvrages de science-fiction sont des bâtiments en béton armé. Ça veut dire qu'au cœur de ce béton, il y a des aciers. Et l'acier, en fait, manque de bol. Dans un milieu à pH 8,3, ben, il rouille. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il rouille ? Vous avez en gris la section, en fait, de l'armature en acier qui est dans le béton. Et quand il va commencer à rouiller, il va former des produits de corrosion, des produits de la rouille. Et ces produits, ils occupent un volume qui est plus important que le fer de départ. Donc, ils vont essayer de croître, sauf qu'il y a le béton autour. Donc, ça pousse. Un peu comme un ballon qu'on gonfle, qu'on gonfle, qu'on gonfle. Puis au bout d'un moment, ben, on atteint la résistance mécanique du béton et pof, ça fissure. Et ça donne des petites choses comme ça. Ça, c'est une éprouvette de laboratoire. Alors, sur un ouvrage très classique, vous en avez tout autour de vous. Hein. C'est votre quotidien. Alors, si c'est réparé, vous ne le voyez plus. Mais avant que ce soit réparé, ça donne des choses comme ça, avec des éclats de béton qui sont tombés et puis des armatures que l'on peut visualiser. Alors, j'ai demandé à un collègue du CEA de me faire un calcul mécanique en partant de l'ouvrage de Otomo Akira, où on voyait cet ouvrage avec des fissures qui étaient perpendiculaires et qui avaient l'air de suivre certaines armatures. Et mon collègue m'a fait un calcul mécanique. En rouge, ce sont les zones fissurées. En bleu, ce sont les zones de béton qui ne sont pas fissurées. Moi, j'ai trouvé assez bluffant, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. mais je trouve que c'est assez bluffant le réalisme de Otomo dans Akira sur la représentation. Donc là, on peut dire aussi, hein, le vieillissement du béton à l'air entraîne sa carbonatation, donc une modification chimique, la corrosion des armatures et finalement des fissures, voire des éclats de béton. Donc là, on voit bien des exemples aussi de représentations SF qui sont très réalistes. Alors, on passe ensuite à la suite. Et que se passe-t-il du coup dans les mondes industriels ?
Alors, nous avons vu la ville, on va dire la ville neutre, la ville des habitants, la ville où nous vivons. Mais la ville, ce sont aussi les mondes industriels. Hein. Et dans le futur, il faut se poser la question, et donc si tu me permets de passer à la suivante, merci. Donc, vous avez plusieurs options. Hein. Les auteurs de science-fiction, quand ils parlent de la disparition de l'humanité, ça peut être brutal. Et le truc le plus brutal qu'ils ont trouvé, évidemment, c'est la guerre atomique. Hein. Et ça apparaît très très tôt, hein, très très tôt. Je dirais avant même. Les premiers essais nucléaires, il y a des auteurs qui y ont pensé. Et Wells, dans The World Set Free, la traduction, il y a eu une traduction française qui est pas très bonne. Donc, Le Monde Rendu Libre, The World Set Free, c'est un bouquin qui est sorti, si je ne me trompe, c'est entre 1913 et 1914. Il imagine une guerre entre la France, hein, et l'Allemagne, où on utilise l'arme atomique. Parce que déjà, il avait pensé que ça pouvait être utilisé. Donc vous imaginez, je dirais encore une fois, H.G. Wells, et là, son constat, parce que c'est un optimiste, Wells, il dit, voyant les abominations, parce qu'évidemment, les Allemands envoient une bombe atomique sur Paris, les Français envoient une bombe atomique sur Berlin, ça fait d'énormes dégâts, tout le monde est terrifié, il dit, mais on peut tous disparaître, et à partir de là, on se dit, ben non, la guerre devient réellement impossible, et là, il va y avoir une entente générale de tous les peuples pour dire, non, on arrête et on va vivre dans la paix perpétuelle. Mais l'idée, c'est ça, c'est, on y pense tout de suite, très tôt, l'idée de la guerre atomique, qu'on va retrouver dans plusieurs exemples. J'ai pris l'exemple de Terminator, de James Cameron, où on voit la bombe atomique sur Los Angeles. Hein, et il y a un texte que je vous ai mis parce que je le trouve absolument merveilleux. C'est un petit roman très court qui s'intitule « Dans les eaux de Babylone » de Stephen Vincent Bennett, où là aussi, on est en 1937, il imagine un futur où il y a eu la guerre atomique, où le monde a été détruit, il ne reste plus que quelques survivants. Hein. Il ne parle pas de bombe atomique, mais tout ce qu'il donne, c'est des endroits où les villes sont abandonnées, où il y a des radiations, où il ne faut pas toucher le métal, etc. etc. Et il y a un jeune qui va dans les ruines de la grande ville. En fait, on va découvrir que c'est New York. Hein. Et puis, il se dit, mais c'était merveilleux ce qu'il y avait avant, parce qu'ils vivent comme des tribus. Il dit, c'est incroyable, c'est affreux, mais qu'est-ce que nous avons fait ? Il se met à pleurer sur les bords de l'Hudson, et donc d'où dans les eaux de Babylone, qui est une référence à une psaume de la Bible, hein, « By the waters of Babylon », donc c'est les Juifs qui sont déportés vers Babylone et qui pleurent en pensant à Sion, c'est-à-dire à ce qu'ils ont perdu, et bien là, nous avons perdu à peu près toute notre civilisation. Donc je vous ai donné cet exemple, la guerre atomique, mais les auteurs de science-fiction ont pensé aussi à autre chose, c'est tout simplement l'accident atomique. L'accident. Hein. Vous vous souvenez du syndrome chinois, qu'est-ce qui va se passer s'il y a une centrale nucléaire qui pète, hein. Et bien évidemment, avec Sunburst, c'est aussi l'accident. Et je vous ai mis, il y a des gens, je présume, qui jouent aux jeux vidéo. Oui, non, oui, je présume, menteur. Il y en a donc Stalker Call of Pripyat, donc c'est en 2009 que le jeu est sorti, ça se passe en 2012, et on va dans Pripyat, et Pripyat c'est quoi ? Et voilà, c'est la ville de Tchernobyl. Donc l'idée, c'est l'accident nucléaire, la suite, voilà. Mais ce qu'il faut voir aussi, et c'est peut-être à mon avis le plus important, c'est certes il y a l'accident nucléaire, mais La vraie question, tout à l'heure, je parlais de la chute de l'Empire romain donc à l'espace Chaïol, et quelqu'un ensuite m'a posé la question en disant « Oui, mais l'Empire romain pouvait s'effondrer, dans le pire des cas, on n'allait pas plus entretenir les aqueducs. » Quoique, ça a duré très longtemps, les aqueducs romains. Mais nous, on a un autre problème. Quand nous allons disparaître, que va-t-il se passer avec nos industries ? Avec nos usines. Vous imaginez toutes les usines chimiques, sans personne pour les contrôler. Quand tout va se répandre, et je ne parle pas des centrales nucléaires, évidemment, il n'y a personne qui va appuyer sur le bouton pour dire stop, et ça y est, c'était... Non, on laisse un héritage, qui est un véritable héritage empoisonné, et qui va, nous, évidemment, nous, on n'y sera plus, mais qui va assassiner la Terre, même quand on n'y sera plus, parce qu'on se dit toujours, la Terre, sans nous, elle se portera mieux, et bien sans nous, ce sera encore pire. Parce qu'il n'y aura personne pour contrôler tous les pièges que nous avons laissés. Et donc, je vous ai donné quelques exemples des friches du futur, avec Robocop, Paul Verhoeven. Encore un jeu vidéo, excusez-moi, je suis très nul en jeu vidéo. Je vous dis tout de suite, c'est mon fils qui m'aide, qui me trouve les images. Au premier truc, je plante. Donc, si je veux aller plus loin, c'est lui qui m'aide. Vous avez le labyrinthe Terre brûlée. Et la suivante image, vous avez donc toute une série d'images parce que les friches industrielles pour le cinéma de science-fiction, c'est un superbe décor et ça permet effectivement de lancer des aventures. Mais tout ça, ce sont des monuments anonymes. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est mais qu'est-ce qui se passe avec les monuments emblématiques ? Par exemple, on parlait aussi tout à l'heure de la statue de la liberté dans la planète des singes. On aurait pu prendre cet exemple-là, mais il y a d'autres exemples. Quel exemple va-t-on prendre ? À tout hasard. Un exemple français, par exemple. La Tour Eiffel. Prenons la Tour Eiffel.
Alors, les monuments iconiques et la Tour Eiffel. Alors, la Tour Eiffel, il y a plusieurs représentations qui ont été sélectionnées par Alain. La première, dans les fourmis de l'ombre jaune. Alors, on est dans une conférence qui intéresse au temps. Donc, on a essayé à chaque fois de marquer les âges du monument suivant les représentations. Donc là, on est 200 ans après 1998. Donc, on voit qu'il ne reste plus que le premier étage de la Tour Eiffel. Donc, on peut supposer qu'il y a eu corrosion des deux derniers étages en dessous. 100 ans. Alors, je vous ai mis à droite les historiques des couleurs de la Tour Eiffel, parce que je me suis dit, ça peut être intéressant de comparer les couleurs réelles avec les couleurs que les illustrateurs de science-fiction choisissent dans leurs ouvrages. Donc, elle est passée d'un rouge Venise par le brun au jaune orange, au jaune clair, et puis là, actuellement, elle est plutôt au brun Tour Eiffel. Alors, il y a d'autres types de représentations qui sont un petit peu moins pessimistes. 227 ans après EO, c'est quoi EO, Alain, rappelle-moi.
Alors, EO, c'est la catastrophe qui marque le début des EgoVox.
D'accord.
Alors, celles et ceux qui connaissent la bande dessinée EgoVox.
D'accord. Donc, c'est 227 ans après la catastrophe. Là, on a l'air de constater que la Tour Eiffel, elle est relativement intacte. Elle est ensablée,
Elle est ensablée et donc, CK, dans une interview, a dit « Pour cette image-là, j'ai pensé évidemment à la statue de la liberté dans la planète des singes et j'ai voulu faire la même chose mais avec la Tour Eiffel. Donc l'idée c'est ça, c'est derrière il y a
un appel à l'autre œuvre. Et puis on a l'ouvrage Déluge, plusieurs siècles dans le futur où là elle est immergée, la Tour Eiffel est immergée. On la voit un petit peu marron, gris, mais on a l'air de voir qu'elle tient encore relativement bien. Et puis l'ogive du monde, là c'est encore plus pessimiste parce que là on dit que la tour était dévorée de rouille, elle menaçait de s'effondrer et donc il a été décidé d'en finir sans dommage avec le monument le plus célèbre du monde. Alors je sais pas combien de temps c'était après
c'était à peu près 400 ans.
D'accord. Donc sur ces images là je me suis amusée à essayer de comme je l'avais fait sur le béton, de vérifier est-ce que ces images là étaient réalistes ou pas. Alors je vais vous parler maintenant de corrosion atmosphérique. La corrosion atmosphérique des aciers, en fait, je vous ai présenté, j'ai mis un petit peu de science, alors je vous ai mis des petites équations de corrosion pour que ce soit un petit peu rigolo. il fallait que je justifie la scientifique dans l'histoire.
Je suis scientifique aussi.
Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que la vitesse de corrosion à l'atmosphère, en fait, elle dépend de ce qu'on appelle les cycles humidification-séchage. Donc, suivant qu'il pleut, qu'il fait soleil, la rosée du matin, voilà, c'est ça qui va piloter la vitesse à laquelle le métal va se corroder. Donc là, je vais vous parler, moi, quand je vais vous dire vitesse de corrosion atmosphérique, je vais vous parler d'une perte de métal, puisque là, il faut qu'on essaye de voir est-ce qu'au bout de 200 ans, les auteurs avaient raison de dire que les deux étages les plus hauts de la tour Eiffel, il n'y en avait plus, quoi. Donc on avait totalement perdu le métal. Alors la corrosion atmosphérique, elle est présente en fait dans des normes de corrosion et on peut trouver des vitesses de corrosion dans des normes. Donc c'est ce que je me suis amusée à faire. J'ai pris une nature d'acier qui ressemblait à celui de la tour Eiffel et puis j'ai tracé un petit graphique qui exprime la perte de métal en fonction de la durée. Donc vous voyez que je vais de 0 à 5000 ans. Ce qui était intéressant de noter quand on en a discuté, c'était que la vitesse de corrosion, elle dépend du milieu dans lequel a lieu la corrosion, et notamment, ça corrode plus vite dans un milieu urbain et pollué que dans un milieu rural et non pollué. Bon, ça, c'est juste pour votre réflexion, mais ce qu'on peut voir, c'est que, alors, 5 cm, c'est ce que j'ai trouvé de plus réaliste sur certainement les épaisseurs
des poutres
de la tour Eiffel. C'est de l'ordre de 5 cm. Donc, ce qu'on voit là sur le graphique, c'est que dans un milieu pollué, on pourrait avoir les pertes de métal de 5 cm au bout de 5000 ans. Donc là, je suis un peu désolée de te le dire, Alain, mais là, pour le coup, les représentations science-fiction sont plutôt pessimistes, et notamment la première où on voit les deux étages s'être effondrés.
Quelque chose a fait exploser le haut.
Voilà, on peut dire ça, que ce n'était pas le vieillissement naturel.
Non, si c'est dans la BD, c'est réellement le vieillissement. Je suis désolé, il n'y a pas eu.
Peut-être ça tombe. Bon, mais là, quand même, 5000 ans, c'est quand même dans longtemps. Mais en tout cas,
mais c'est trop long pour un auteur de science-fiction.
Ouais, ils ont accéléré. Voilà. En tout cas, on s'est dit avec Alain, finalement, et ça sera nos transparentes conclusions, on s'est dit, au final, c'est la nature qui va gagner. Et on a voulu un peu terminer par ça et quelques illustrations sur le fait que la nature va reprendre ses droits sur tout ça lorsqu'il n'y aura plus d'humains et plus personne pour entretenir tous ces ouvrages que l'on vient de mentionner. Et là, on a du coup sélectionné des illustrations sur cette base-là.
Alors si oui, on peut commencer. Vous voyez, donc on a pris, encore une fois, des images, on pourrait en sortir plein. Donc on a pris juste quelques petits exemples comme ça. Donc la victoire de la nuit dans la belle mort, hein, qui est un très très bel album BD. On voit donc la Terre a été envahie par des insectes géants. Il y a quasiment plus d'humains et tout ça tombe à l'abandon. Et vous voyez que la nature vient. Elle revient sur tous les bâtiments. Et vous avez Michael Anderson dans L'âge de cristal, Logan's Run, donc c'est 1976. Là, pour ceux, il y en a qui l'ont vu, c'est un vieux film, mais qui est assez intéressant. On est dans le futur, les gens vivent sous globe, parce que on dit qu'à l'extérieur, on peut plus vivre, mais il y a une limite d'âge. Quand on atteint 30 ans, hop, on est éliminé. Et puis, il y a des gens qui sont pas complètement d'accord avec ça. Et il y a notamment deux personnes, un homme et une femme. Bon, déjà, Adam et Ève, bien sûr, qui sortent et qui découvrent la planète. Et ils découvrent, là, ce que vous voyez, c'est quoi, là-haut? Si je vous dis qu'on est à Washington. Voilà. Non, c'est pas la Maison Blanche. Tout petit la Maison Blanche. Hein. Non, là c'est voilà, exactement. C'est le Capitole. Donc vous voyez tout envahi par la végétation. Hein. Mais on est là plusieurs centaines d'années après cette séparation de l'homme avec des êtres humains, avec leur environnement. Mais il y en a une autre image qui là nous a frappé, hein, dans Je suis une légende de Francis Lawrence. Valérie, c'est frappant ça.
3 ans après 2009, donc là on voit que la végétation effectivement a poussé. Mais je disais à Alain, moi ce qui m'a marqué, c'est que le logo McDonald's, il est intact. Et les peintures...
La civilisation est sauvée.
Elles sont restées intactes. Ça c'était assez rigolo.
Mais la nature a tout de suite repris ses droits. Vous avez vu, en 3 ans, si vous...
On voit quasiment plus le héros marcher.
Ça c'est pas du tout réaliste.
Et voilà. Ça, par contre, c'est assez bluffant de réalisme.
Ça, c'est bluffant. Ouais. C'est, alors, encore une fois, c'est une image qui représente la victoire de la nature. On est avec donc les bulles de l'ambre jaune. On est dans l'an 3322. C'est New York. Bob Moran se retrouve projeté dans le futur à New York. Et il y a des racines de tous les côtés qui envahissent. Et ces racines-là, eh ben.
Étrangement à ce que tu as, c'est toi qui l'as photographié?
Non, c'est ma sœur.
C'est ta sœur.
Merci Daniel.
Qui a photographié les ruines des temples d'Angkor fondés au 9e siècle. Et en fait, en faisant rapidement le petit calcul, on s'est rendu compte que c'était exactement le même âge que dans la BD. Donc voilà, réalisme très frappant des auteurs. Alors ensuite, on a l'autre exemple dont on a déjà parlé tout à l'heure par les ouvrages de science-fiction, c'est Tchernobyl et la zone d'exclusion autour de Tchernobyl, puis Pripyat, avec un superbe ouvrage qui n'est pas un ouvrage de science-fiction, mais vraiment moi qui m'a beaucoup émue, un ouvrage d'Emmanuel Lepage qui représente, donc c'est un illustrateur qui va dans la zone d'exclusion de Tchernobyl et qui fait des et qui voilà qui illustre ce qu'il voit. Et c'est un ouvrage que je vous conseille, que j'ai vraiment trouvé magnifique. Et puis Alain, tu as sélectionné toi ce parc d'auto-tamponneuses, qui est assez émouvant aussi.
Oui, c'est un petit parc d'attractions avec les auto-tamponneuses qui sont restées. Donc c'est à la fois l'attraction, c'est les enfants, c'est la jeunesse, c'est un lieu de convivialité, de plaisir, etc. Mais c'est aussi les voitures. Et là, on voit c'est abandonné et on voit la végétation qui recommence là, qui reprend vie dans un milieu qui est quand même difficile.
Hostile. Hein,
qui est hostile parce que les taux de radioactivité, tu me disais,
ils sont relativement aimés, mais la végétation a repris ses droits finalement dans cet environnement-là. Et puis notre dernier transparent, on avait envie de vous proposer quelque chose de local. C'était lors de vacances à Orléans, donc c'est pas très loin sur la Loire. Il y avait quelque chose qui m'avait frappé. C'était une petite conférence sur les Duits de la Loire. Les Duits de la Loire, en fait, avaient été construits au XVIe siècle. C'était pour faciliter la navigation sur la Loire. Lorsque la Loire transitait du coup de Nantes à Orléans, les marchandises en fait qui arrivaient au port de Nantes et ensuite aller jusque Paris. Ces Duits ont été abandonnés en fait au début du XXe siècle, puisque la navigation fluviale a été progressivement remplacée par la navigation routière et ferroviaire. Et donc, en un petit peu moins de 100 ans, on peut voir ici devant nous comment la nature a repris ses droits, parce que ces duits ne sont plus entretenus à l'heure actuelle, et on peut voir à quelle vitesse déjà la nature a repris ses droits. Donc c'était ce petit clin d'œil un peu local pour terminer.
Un petit clin d'œil qui nous rappelle que, encore une fois, n'oublions pas ce que j'ai dit, avec toutes les usines chimiques, si jamais on disparaissait comme ça, la Terre aurait du mal à tout digérer. Mais la Terre a l'habitude de digérer. Elle a digéré jusqu'à présent beaucoup de choses. Ma femme est des Cévennes. C'est absolument extraordinaire quand il y a des touristes qui viennent dans les Cévennes pour voir les paysages sauvages. Il n'y a absolument rien de sauvage dans les Cévennes. Sauf que, comme ce sont d'anciennes zones qui ont été cultivées avant, avec les murettes, etc., etc., maintenant, ça a été abandonné, ça a été reconquis. Il y a donc de la forêt, mais cette forêt-là, encore une fois, c'est la victoire de la nature sur les humains qui n'ont pas continué à entretenir leur petit milieu. Et ça me fait... C'est vrai que quand il y a des amis belges qui viennent dire « Oh, on vient là parce que c'est la nature à l'état pur », mon œil, creuser sous la terre, regarder en hiver, quand il n'y a plus la végétation, et vous allez voir à nouveau tous les murets. Imaginez tout ça avant qui était cultivé. Et là, ça donne une autre dimension encore à notre regard sur notre propre avenir, parce que notre propre avenir, d'un certain côté, ben, il est déjà derrière nous. Voilà. Merci pour votre attention.
Merci à vous. Merci beaucoup. Il nous reste un peu de temps. Alors moi, j'ai des questions, mais je voudrais qu'on donne la parole à Anne Bourdeau,
qui est là-bas, oui, parce oui. que c'était ouais. l'assistante de Valérie.
Anne, voilà, Anne Bourdeau, je voulais qu'elle ait la parole, parce que c'est, j'ai, en fait, quand le CEA et Roland Lehoucq m'ont proposé de faire cette expérience de pensée, moi, je suis pas du tout une fan de science-fiction, j'y connais rien. Donc, je suis allée naturellement voir ma médiathèque préférée, là où j'habite, et Anne, qui est responsable du fonds science-fiction, m'a mis le pied à l'étrier et m'a sélectionné les ouvrages, m'a coaché sur ce qu'on pouvait proposer. Donc, en plus, Anne, vous avez la chance de pouvoir être là aujourd'hui, donc je suis ravie. Et si voilà, si vous avez des choses à ajouter, allez-y.
C'était vraiment une très bonne expérience de préparer ça avec vous. Donc évidemment, la sélection qui a été faite là, c'est vraiment tout petit par rapport à tout ce qui peut exister en matière de science-fiction, surtout post-apocalyptique. C'est quand même essentiellement dans ce genre-là qu'on a été pioché. Donc ce qui nous a tout de suite sauté aux yeux, c'est que c'était quand même très difficile, très pessimiste. Souvent, c'est des scénarios quand même très noirs. Pourtant, on a quand même trouvé beaucoup de choses intéressantes. Alors, je n'avais pas préparé ça, mais à la lumière de ce que vous avez présenté là, il y a de quoi se demander quand même si les auteurs, est-ce que qui sont vraiment dans le juste en fait, dans ce qu'ils ont imaginé d'une terre sans humanité, est-ce que ils l'ont fait de manière assez intuitive, ou est-ce que ils ont fait de vraies recherches là-dessus ? C'est une question intéressante qu'on peut se poser. Et par rapport à voilà une remarque plus sur l'ensemble du coup de ce que on a pu voir de ce genre, c'est pessimiste, et pourtant même dans les romans les plus durs, moi un des premiers auxquels j'ai pensé c'était La Route de Cormac McCarthy, qui est peut-être un des romans post-apocalyptiques les plus noirs qui existent. Il y a pourtant toujours souvent une petite lueur d'espoir à la fin. Et il y a aussi Silo de Hugo Howey qui est là, auquel j'ai tout de suite pensé, parce que bah, par rapport à votre spécialité, bah, ils vivent dans du béton depuis des centaines d'années, donc c'est quand même hyper intéressant. Et ben bah, même là, il y a quand même toujours un petit peu d'espoir à la fin, même si c'est des romans assez noirs. En tout cas, il y a toujours quelque chose qui reste, quoi. Et de la culture humaine et de leurs matériaux. Voilà.
Merci. Moi, j'aurais voulu savoir, justement, ça faisait partie de l'intitulé de la rencontre, aussi ce qu'on allait laisser. Alors, admettons que le béton tienne et que, par exemple, il y a des bibliothèques dans du béton. Est-ce que les ouvrages, bon, alors on peut parler du fait que la technologie ne marchera plus. On peut laisser des disquettes, mais on n'aura plus peut-être les trucs. C'est déjà le cas. On peut déjà plus lire des disquettes quasiment. Le papier, si une autre civilisation se crée, est-ce qu'elle va retrouver nos livres, est-ce que vous avez réfléchi à ça, à notre culture quoi en fait, au-delà de nos, parce que là on était vraiment dans the big picture quoi, est-ce que sur des choses plus petites, la chute de l'Empire romain, il nous est resté,
reste les pyramides d'Égypte,
voilà. Qu'est-ce qu'on laissera de plus culturel, je veux dire que.
Ah. Alors là, c'est difficile à dire, mais en tout cas sur le problème des livres, je vous renvoie au jour d'après. Vous savez, ils sont réfugiés dans la bibliothèque hein, de New York, et pour survivre, ils doivent brûler les livres. Hein, et il y en a un qui dit non, pas celui-là, non, pas ça. Et puis finalement, on dit allez, bon, c'est les livres ou nous. Et c'est une vraie question, les livres ou nous. Hein et ça, c'est qu'est-ce que nous allons laisser? Moi, je suis très matériel. Hein, et c'est vrai que quand je vois tous les supports qui sont qui dépendent de l'électricité, je veux dire, un bon bouquin avec des feuilles de papier, Gutenberg et tout ce qu'on voudra, même quand tu n'auras plus d'électricité, je pourrais le lire. Si j'ai un Kindle.
Mais s'il fait nuit, Alain, tu ne pourras pas.
Ah ben oui, mais j'attends le jour quand même. Bon, et puis un petit feu de bois, bon, une torche, ça peut toujours marcher. Donc, qu'est-ce que nous allons laisser, honnêtement, grande question, je ne suis pas sûr qu'on puisse répondre. Mais qu'est-ce qu'ont laissé les autres civilisations? Finalement, très peu de choses aussi. Moi, je suis un spécialiste d'Amérique latine et du Mexique. Au Mexique, il y avait une culture livresque énorme. Il y avait beaucoup de manuscrits, hein, c'est ce qu'on appelait des codex, Il y avait des bibliothèques entières. Le roi de Texcoco avait une bibliothèque avec des milliers de manuscrits. Qu'ont fait les Espagnols quand ils sont arrivés? Ils ont tout brûlé parce que c'était diabolique. Et résultat, il reste au total de manuscrits précolombiens, il reste 3 manuscrits mayas, 3, dont un qui est à Paris. On leur a piqué. Mais Dresde, ils ont fait pareil. Enfin bon, je ne vais pas chicaner. Et il reste 13 manuscrits mixtèques. C'est tout. C'est tout. Vous imaginez tout ce qui a été perdu. Imaginez aussi ce qui s'est passé lors de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Ça a été un véritable drame. Donc il ne faut pas se faire d'illusions non plus. Je pense que quand nous aurons disparu, il ne restera pas grand-chose de nous. Il restera peut-être encore une fois quelques monuments, si le béton tient, mais voilà, mais il ne faut pas se faire d'illusions non plus, hein, sincèrement.
Dans le public, oui, allez-y.
Donc, du coup, si la nature va triompher, parce que l'humanité va disparaître, mais du coup... En fait, j'ai vu des émissions YouTube si l'espèce humaine va disparaître, même sur la télévision. Du coup, les structures, les bâtiments vont être détruits au fil du temps. Les animaux vont reprendre, vont aller dans les villes parce qu'il n'y a plus d'humains. Et ensuite, il restera des petits bouts de métaux, de plastique qui seront des vestiges de notre époque d'ici des millions d'années si l'espèce humaine a disparu d'un coup soudain. Donc en fait, j'ai aussi vu le truc avec les manuscrits qui ont été disparus à cause de parce qu'on les a brûlés. Mais en fait, ce sont des preuves précieuses qui auraient des informations sur les civilisations aztèques, mayas. Mais en fait, les Espagnols les ont fait brûler parce qu'ils étaient inconscients, un peu bêtes d'un côté. Donc du coup, ils ont fait disparaître une source de savoir inestimable. Pour l'espèce humaine. Donc, du coup, c'est vraiment. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de. En fait, faut pas. Moi, j'aurais mis comme enseignement de ne pas brûler des livres parce que c'est bête. En fait, si on brûle des sources de savoir, ça veut dire que ça veut dire qu'on aurait cherché en vain. C'est un peu bête. Hein.
Oui. Effectivement, mais c'est... n'oubliez pas une chose, c'est que les Espagnols n'ont pas été les seuls à faire des autodafés. Souvenons-nous des autodafés à l'époque d'Hitler, hein, toutes les œuvres qui correspondaient pas à la politique et à la philosophie du Reich étaient brûlées, que ce soit des livres, des tableaux, tout l'art dit décadent, hein. Donc c'est pas bête, c'est idéologique. C'est fait exprès, hein. Et c'est fait exprès pour tuer les cultures. Ça s'appelle un ethnocide, hein. On tue la culture. Et c'est exprès pour affirmer son pouvoir. Et ne vous faites pas dire... excusez-moi. Attention, on parle de science-fiction, on ne dit pas, Valérie et moi, que l'espèce humaine va disparaître. Hein. C'est une hypothèse qui est prise par les auteurs de science-fiction. Ils disent, et si c'était vrai, qu'est-ce qui se passerait, hein, voilà. Donc,
c'est une expérience de pensée. Voilà,
c'est une expérience, hein, c'est une expérience de pensée.
Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui, allez-y.
Vous pensez pas qu'actuellement on est dans une espèce de terraformation, mais dans l'autre sens? C'est-à-dire que quand on vise à terraformer Mars, c'est-à-dire qu'on veut faire pousser des plantes, qu'il y ait de l'eau sous forme liquide, de l'air, etc. Vous pensez pas qu'actuellement, là, avec nos villes, notre mode de consommation, les usines, etc., on est dans une espèce de terraformation, mais dans une autre.
Qu'on transforme la Terre en Mars.
Exactement, on transforme la Terre à Mars, ou à ce que nous on a besoin et que la Terre n'a pas besoin. À savoir, ouais, que nous, on a besoin de la Terre n'a pas besoin de nous.
Alors, je suis entièrement d'accord avec vous, et c'est un des grands thèmes de la science-fiction, les êtres humains comme parasites, hein, de la planète, hein, ça, c'est sûr. Alors, c'est pas de la terraformation, c'est tout simplement qu'on tue notre planète. On la tue. Hein. Et là, c'est lié à nos modes de production, nos modes de vie et tout ce qu'on voudra. Tous les sommets de la Terre disent qu'il faut arrêter, et alors on continue. Hein. C'était il y a 3 ans quand j'étais venu, parce que la thématique c'était les fins du monde, etc. Bon, et donc j'avais dit l'apocalypse, c'est pas comme ça. C'est pas un claquement de doigts. Ça va se faire progressivement. Hein. La seule différence, c'est qu'on est déjà entré dans l'Apocalypse, mais on veut pas s'en rendre compte. On fait comme si c'était pas vrai. Et j'avais donné l'exemple. Alors je sais pas si c'est vrai, j'ai jamais fait l'expérience. Peut-être les sciences dures pourraient me répondre. Il paraît que quand on met une grenouille dans l'eau bouillante, évidemment, elle s'échappe. Enfin, elle essaye de s'échapper. Mais que si on fait monter progressivement la chaleur de la marmite, elle va rester jusqu'à ce qu'elle crève. Hein, alors je sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on raconte. Eh ben, nous sommes les grenouilles et notre marmite est en train de bouillir.
Ben oui.
Ça dépend. Que, ben donc, non, non, mais effectivement, tout se recycle, effectivement. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Et c'est bien notre mode de production ou de destruction qui est en cause. Et c'est ça qu'il faudrait réussir à changer.
Valérie, il me semble que vous travaillez un peu sur Fukushima, non? C'est ce que vous m'avez dit, il me semble.
Ouais. Un petit peu, ouais.
On en est où alors?
C'est la
pour non, finir sur une note positive, on en est où ?
Ouais, bah Fukushima, on est en train de, enfin ils sont en train de. Alors moi je travaille, enfin je travaille pas, je vais aller à Fukushima pour donner un peu hein, une vision de la dégradation du béton, hein, parce que moi je suis surtout béton. Ils ont plein d'autres problèmes là-bas, hein, donc moi j'ai pas connaissance, enfin c'est pas mon domaine scientifique. Ouais. Mais en tout cas, ils ont géré sur le moment comme ils ont pu. Je pense qu'ils ont géré au mieux qu'ils ont pu. Et en fait, pour pouvoir refroidir cette centrale, donc qui montait en température et en radioactivité, ils ont refroidi avec l'eau de mer qu'ils avaient à disposition. Et pour les structures en béton et en béton armé, en fait, le contact avec l'eau de mer, c'est plutôt négatif. Donc, on a une conférence là qui va bientôt arriver pour essayer de voir quelles ont été les problématiques liées à ce séjour des structures en béton sur l'eau de mer. Mais là, ils sont en train de décontaminer, de gérer les déchets qui ont été générés liés à la catastrophe. Voilà. Donc, ils sont sur le feu, quoi.
Ok.
Ouais, c'est le cas de le dire, quoi.
Une toujours. Dernière question parce qu'on n'aura plus le temps après, ouais.
Merci pour la conférence. Une question pour conclure sur la conférence. Vous avez évoqué tout à l'heure la catastrophe chimique et nucléaire comme avec un côté alarmant. Vous avez vraiment postulé quelque chose d'alarmant. Pour revenir après un peu plus sur quelque chose que finalement la Terre va très bien absorber. On voit le cas très bien avec Pripyat où la faune et la flore est revenue de manière luxuriante. Et justement, en voyant ça, en voyant l'évolution, comme vous êtes très matériel, est-ce que est-ce que vous pensez que la Terre peut très bien se passer de nous et qu'au final, ça serait comme si on n'avait rien eu.
Bah, c'était un peu la conclusion de notre.
Elle s'est passée de nous pendant très longtemps, ouais. Hein, donc elle se portait bien.
Et je pense que malgré tout, parce que vous avez dit que toutes les centrales, voilà, s'ils sont plus.
Imaginons effectivement, en revanche, alors, enfin, triomphe de la nature, oui, c'est incontestable.
Les animaux, par exemple, est-ce que avec les radiations, ils vont tous mourir ?
Les cancrelats vont s'en sortir très bien, en premier, hein, c'est bien connu. Si vous voulez, l'idée, c'est qu'à Pripyat, à Tchernobyl, on a évité l'accident majeur quand même. Ça aurait pu péter pour de bon. Et là, vous imaginez ce que ça représente. Alors, imaginez en France, il n'y a plus personne pour s'occuper, ne serait-ce que uniquement de nos centrales nucléaires à nous. L'idée, c'est ça. Il n'y a plus. Et vous imaginez toutes les centrales qui pètent. Rien qu'en France. Bravo pour les survivants, pour ensuite s'en sortir, aller chasser, etc. Alors, il y aura sans aucun doute des transformations, des mutations. Gros thème de la science-fiction, hein, combien de
mutants, géants,
c'est ça, voilà. Mais il faut voir, je pense qu'elle absorbera, hein, mais au prix d'une transformation absolument faramineuse des conditions de vie.
Pensait aussi à tout ce qui est barrage, par exemple, hein, qui pourrait, les humains n'étaient plus présents, donc on aurait des vallées englouties, d'où le thème villes englouties, en fait.
Au niveau tourisme, ça sera bien, on aura de tout nouveaux paysages.
Et il y aura de la plage.
Faudrait savoir faire de la plongée après. Hein.
On va s'arrêter sur ces bonnes nouvelles et remercier Valérie et Alain. Merci beaucoup.